Bonsoir. Donc ce soir, nous avons commencé notre séance d'une façon un peu particulière puisque chacun a pu voter, choisir trois mots qui caractérisaient Dieu pour eux. Et vous ne le voyez pas, vous qui entendez ça par Internet, mais il y a au tableau projeté tous les mots qui ont été attribués à Dieu et ils sont plus ou moins gros selon le nombre de personnes qui ont choisi ce mot pour désigner Dieu. Alors, à moi de reprendre maintenant un peu tout ça. Ce qui ressort très nettement comme mot au centre et en gros, c'est amour, créateur, tout-puissant. Et puis, il y a un mot qui est un peu disséminé parce que vous avez varié les orthographes et ou les compositions, c'est père. Il y a notre père, père, avec ou sans accent. Et je pense que si on les regroupe tous, ils doivent aussi arriver. Vous voyez, il y en a là, là et là. Ils doivent arriver aussi en bonne position. En fait, voilà. Donc ce qu'on voit déjà, c'est que rien qu'avec ces mots centraux, et on pourrait développer les outils qu'il y a autour, c'est que il y a des mots qui le caractérisent comme être, voilà, qu'est-ce qu'il est, et puis il y a des mots qui le caractérisent davantage dans la relation, comme amour, comme père, voilà, qu'est-ce qu'il est, il est tout puissant, il est créateur, on est moins dans le relationnel à ce moment-là, plus dans l'état, dans son être profond. Et quand on parle de Dieu, effectivement, on peut parler de ces deux dimensions-là. C'est le propre des dieux, du Dieu judéo-chrétien, c'est d'entrer en relation. Mais j'y reviendrai. Alors, Dieu est amour, on a cette phrase au cœur du Nouveau Testament, vous le savez, sous la plume de Jean. Mais pour arriver à cerner ce mot-là aussi, qui est l'attribut fondamental de Dieu, on va développer plutôt les autres dimension pour essayer de mettre du contenu derrière ce mot amour. Et le premier mot, c'est créateur. Dieu est créateur, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Eh bien, pour bien comprendre ce que ça veut dire, on va repartir un petit peu du contexte dans lequel ce mot a émergé. Le peuple d'Israël, vous le savez, se construit dans un bain culturel donné, au milieu de la Mésopotamie, de l'Égypte, etc. Et en particulier en Mésopotamie, ce qui domine quand on pense la création du monde, c'est une vision dualiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au commencement du monde, il y a deux forces, une bonne, une mauvaise, de même force, qui luttent l'une contre l'autre, et de ce combat finit par émerger un monde tiraillé entre deux forces antagonistes. Ça va? Mais, en fait, le dialogue avec Dieu, qu'Israël va entreprendre, va lui amener plus loin. En fait, le monde n'est pas issu d'un combat, d'abord et avant tout. Il est issu d'un Dieu créateur, d'un Dieu bon, fondamentalement bon. Et ça, c'est une vision tout à fait originale au sein des cultures qui sont à l'époque. C'est Dieu qui, à partir de sa propre volonté, va faire émerger de rien le monde. On reviendra à cette création ex nihilo. Mais il n'y a pas un combat entre Dieu et les forces du mal, entre Dieu et la matière. Quand vous avez lu le texte de la Genèse, vous l'entendez à chaque Pâques, à aucun moment vous avez l'impression que la matière est quelque chose qui s'oppose à la volonté de Dieu, vous voyez. Dieu crée quelque chose de bon à partir de quelque chose qui est bon. Voilà, et ça c'est original. Dieu crée. Et puis, ça va aussi conduire du coup à éliminer de la vision de Dieu, Dieu comme créateur, une vision panthéiste, où Dieu créerait un peu à partir de lui-même, en fait, et il serait finalement présent en toute chose. Toute chose serait Dieu de la même façon, parce que Dieu est absolument présent identiquement dans chaque chose. Donc dès que je marche sur un brin d'herbe, je marche sur Dieu autant que si je marche sur la tête de quelqu'un, etc. Vous voyez, Dieu est partout. Et en fait, si Dieu est créateur, ça veut dire qu'il était là, pardonnez-moi le mot, mais ce n'est pas tout à fait juste, mais il était là avant qu'il y ait quoi que ce soit, et donc il n'est pas exactement les choses qu'il a créées. Il est distinct, profondément distinct des choses qu'il a créées. Il n'avait pas besoin du monde pour exister, et le monde a existé distinctement de lui. Et puis, en fait, ce qui est étonnant dans la Bible, c'est que le mot créateur, c'est pas le premier qui est attribué à Dieu. Si on reprend la date de rédaction de tous les livres de la Bible, le premier livre qui a été rédigé, c'est le livre de l'Exode, en fait. Donc l'expérience fondamentale du peuple hébreu, c'est pas, comme nous, rationalistes cartésiens, de dire d'où vient le monde. La première expérience, c'est de dire, en fait, Dieu m'a sauvé. Dieu est un Dieu libérateur, fondamentalement. Et du coup, lorsque ils vont écrire la Genèse derrière, en fait, ils vont réaliser que la création, la nature qu'ils voient devant eux, a été comme libérée par Dieu de quelque chose, tirée par Dieu de quelque chose. Ils pensent la création comme déjà un acte de salut. Vous voyez, c'est assez fort, en fait. Voilà. En nous créant, Dieu nous sauve déjà. C'est ça le sens de la création ex nihilo, vous savez, à partir de rien. Du coup, Dieu crée ex nihilo, ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose de préexistant, il n'y a vraiment rien. Il crée à partir de rien, il nous tire de nulle part, et même pas de lui-même, vous voyez. On est, comme je disais encore une fois, complètement distinct. La création se fait à partir de rien. Et c'est un acte tellement unique, en fait, que les Hébreux ont même un terme spécifique pour ça. Tout ce qui est de la fabrication, ils ont le mot kana pour expliquer ça. Et puis, pour ce qui est de la création, ils avaient le mot bara, qui est un mot. Ils ont eu besoin d'inventer un mot spécial, tellement cet acte est unique. C'est nous tirer de rien, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que Dieu nous fait exister alors qu'on ne devrait pas être. On n'a pas de raison d'être puisqu'il n'y avait rien avant. Vous voyez, Dieu choisit librement de nous faire exister. C'est pour ça qu'on peut dire que la création, c'est un acte de salut. Il nous sauve de n'être rien, en fait. C'est fou, c'est vertigineux. Il n'y a pas besoin de nous, et pourtant on est là. C'est quand même incroyable. Voilà pour un premier mouvement de la pensée hébraïque autour du mot créateur. Mais en fait, elle va, dans l'histoire, continuer à avancer et rencontrer une autre culture, qui elle aussi a réfléchi sur comment le monde a été créé. C'est une culture un tout petit peu plus lointaine, c'est la culture grecque, qui elle, avec son petit cerveau et ses bras musclés, a élaboré une vision du monde et qu'elle l'a pensé comme un tout organisé, ce qu'on appelle un cosmos. Le monde n'est pas un bazar, c'est organisé. Et il y a une intelligence derrière qui a mis ce monde en mouvement, qui l'a organisé d'une façon cohérente dans la pensée grecque. Et alors, assez vite, en fait, rencontrant cette pensée, ben, les Hébreux vont se dire, ben oui, en fait, nous, d'ailleurs, on sait qui c'est, cet être créateur, organisateur, qui met le monde en ordre. Et dans cet ordre que Dieu met en place, vous le savez, les Grecs avaient perçu ça, les Hébreux leur façon aussi, il y a un être qui a une place particulière, c'est l'homme. L'homme, pourquoi? Parce qu'il est capable de comprendre cette cohérence, cette logique qu'il y a dans le monde, ce langage qui met en forme le monde, et il est capable de se dire qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Ça, c'est un acte fondamental, c'est quelque chose de fondamental parce que c'est là nos anciens vont reconnaître que l'homme est à l'image de Dieu. Il est à l'image de Dieu parce qu'il est capable lui aussi de comprendre le monde, lui aussi de connaître le monde. Et puis, l'homme va aussi réaliser du coup que Dieu est un être qui veut entrer en relation. Parce que lui, homme, est un être de relation et que Dieu a créé le monde étonnamment, de telle sorte à ce qu'il soit compréhensible, en fait. Et qu'on puisse se dire, tiens, Dieu, à partir du monde, Dieu existe. Vous voyez, c'est pas naturel. Comme disait Einstein, le plus incroyable dans le monde, c'est qu'il soit compréhensible, en fait. Et le plus incompréhensible du monde, c'est qu'il soit compréhensible. Il pourrait être complètement opaque, ce monde. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Dieu a créé le monde de telle sorte que on puisse le connaître, lui. Donc, il avait envie, en créant le monde, que ce monde nous rende capable de le connaître. Donc Dieu a envie qu'on le connaisse. Dieu a envie de rentrer en relation. Il n'a pas attendu Jésus pour vouloir commencer à rentrer en relation. Alors évidemment que c'est plus facile quand on a Jésus de voir ce qui se passe, mais la création déjà est un geste de Dieu pour dire eh ben, je veux te connaître, je veux être en relation avec toi. Et donc du coup, contrairement aux Grecs, les Hébreux vont se dire mais en fait, oui, notre Dieu, il le savait déjà, mais ça va consolider cette idée que oui, le monde a été créé par une force, par un être, voilà, mais cet être, c'est une personne, je peux entrer en relation avec lui. Ce n'est pas quelque chose de transcendant et un peu impersonnel, une énergie même, pour reprendre des vocabulaires beaucoup plus orientaux. Voilà, Dieu, c'est quelqu'un, c'est une personne, avec une intelligence qui a mis en ordre le monde, une volonté qui a mis en branle le monde. Mais alors du coup, se pose la question de pourquoi Dieu a voulu créer, en fait. Comme je vous le disais, il crée à partir de rien, en fait, il n'y a pas besoin de créer. Voilà. Donc en fait, cette création, c'est un acte purement gratuit. Il crée pour rien, comme ça, gratuitement. C'est ça qu'il y a aussi derrière le mot créateur, hein, un côté gratuit. Complètement gratuit. On n'a rien fait pour mériter ça, et il ne demande pas de mériter d'avoir été créé. C'est pas du tout dans sa pensée. Dieu se suffit à lui-même, il est parfait, il n'a pas besoin de nous, et pourtant, il nous crée. Il nous crée parce que, en fait, l'être même de Dieu, c'est de pouvoir se donner, de pouvoir se diffuser. La gloire de Dieu, c'est de que cette gloire puisse rayonner. Comme le dit Saint Bonaventure, par exemple, je vous la refais, il ne crée pas pour sa gloire, Dieu, mais pour manifester et communiquer cette gloire, comme le dit Saint Bonaventure. Voilà la bonne intonation pour que vous compreniez ma phrase. Et c'est beau ça, parce que Dieu, du coup, il nous crée sans nous, c'est vrai, mais il ne veut pas que notre vie se passe sans nous. Voilà. Dit plus tard avec d'autres mots, Dieu nous crée maintenant, Dieu nous crée sans nous, mais il ne veut pas nous sauver sans nous. On en parlera quand on parlera de Jésus qui nous sauve. Et pour cela, du coup, il a besoin de notre liberté. Ça va s'articuler sur le fait que Dieu est distincte de nous. En fait. Donc ça veut dire qu'il y a de la place aussi pour que nous, on vive notre vie avec les règles dont il nous a dotés, avec la liberté dont il nous a dotés. Dieu nous crée libre. Dieu crée le monde libre, puisque le monde n'est pas Dieu, exactement. Okay. Et ça, c'est vraiment important. La physique, la nature vit sa vie avec ses lois de la physique. Ça n'exclut pas tantôt un petit miracle, mais ce n'est pas la règle de base du fonctionnement du monde. Voilà, Dieu laisse au monde son libre cours, et nous, du coup, de la même façon qu'il laisse au monde son libre cours, il nous laisse, nous, notre liberté dont il nous a doté, il la laisse s'exercer pour construire notre vie avec ou malheureusement sans lui. C'est ça le sens de cette phrase bien connue aussi, « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Vous savez, au début de la Genèse, et on a beaucoup glosé là-dessus, pourquoi parler d'image et de ressemblance ? Parce qu'une image, normalement, en fait, on fait l'expérience de ces fois que les images sont plus ou moins ressemblantes. Voilà. Et notre liberté, c'est l'instrument qui fait qu'on peut choisir, oui ou non, de façonner notre image plus ou moins à la ressemblance de Dieu. Et Dieu nous appelle à, il nous a créé comme son image, et il nous appelle à devenir vraiment une image ressemblante. Ça implique autre chose pour la création. C'est un peu long, je suis désolé, mais il y a pas mal d'éléments derrière ce mot parce que c'est pas si évident que ça, en fait, toute la création. Ça implique autre chose concernant la création, c'est que, du coup, Dieu ne crée pas une fois pour toutes. Vous voyez ? Lorsqu'il crée quelque chose, il lui donne les moyens d'avancer, et donc il la soutient dans la création. On pourrait presque dire qu'il la recrée sans cesse, pour qu'elle ait les moyens de continuer à choisir, à avancer. Dieu ne peut pas lancer les choses comme ça et voir le résultat parce qu'il est à la racine de notre être. Il nous tire du néant et s'il nous lâche, on n'est plus rien. Voilà. Donc Dieu nous soutient à chaque instant. Et donc la création, ce n'est pas un acte du passé, mais c'est un acte qui se renouvelle à chaque instant. Chacune des créatures est dans la main de Dieu, portée dans l'existence comme si, je vous le disais, Dieu l'a recréée entre guillemets à chaque instant. Et donc la conséquence est importante, on l'a déjà souligné, c'est que Dieu entre en relation. Et c'est là le lien entre les deux types de mots, entre ce que Dieu est et le fait qu'il entre en relation, c'est que si la relation avec lui est coupée, en fait, on tombe dans le néant. Enfin, dernière chose, un élément qui n'apparaît pas là, mais qui en fait va venir se greffer sur le mot de créateur. C'est le fait que, et qui est très important, pardon, ce mot pour les juifs, Dieu est aussi législateur. Ce Dieu créateur, je vous l'ai dit, c'est lui qui donne ses règles au monde et qui dit le monde va fonctionner comme ci ou comme ça. Une pomme tombera parce que la gravité fait qu'elle tombe. La pomme ne décide pas de tomber toute seule, vous voyez. Et donc il y a des règles dans la nature que Dieu a données et Israël découvre aussi que Dieu est législateur pour lui. Non seulement pour le créer, mais pour l'aider à avancer librement en faisant sans cesse ce qui est bon. Et lui donne les règles qui permettent de savoir ce qui est bon et d'avancer ce qui est bon. C'est dans la continuité, en fait, de ce geste créateur. Et donc, donner une loi, c'est comme aider à recréer, permettre de recréer. Oui. Donc, les Hébreux n'ont pas du tout une vision juridique au sens moderne du terme de la loi. Ils la voient toujours comme un acte de libération, un acte de création. D'ailleurs, vous noterez que la loi, les 10 commandements et toute la loi de Moïse est donnée à quel moment ? Juste après la sortie d'Égypte, juste après que Dieu ait libéré son peuple. Et donc, dans la tête des Hébreux, cette loi-là, ce n'est pas du tout une loi d'oppression, ça n'aurait pas de sens, ça serait contradictoire. C'est une loi d'un Dieu qui vient de nous sauver, donc qui nous indique le chemin du bonheur. Et c'est ainsi que voilà, ce Dieu créateur est perçu aussi comme un Dieu législateur. Un petit mot sur Dieu Tout-Puissant. C'est le deuxième mot qui... Enfin, le troisième mot, il y a le mot amour d'abord qui sera en gros, puis créateur, donc tout-puissant, qui... Quelque créateur entre l'accent et sans accent, peut-être que c'était le premier, je ne sais pas. Bref, après le Dieu créateur, il y a le Dieu tout-puissant, un petit mot là-dessus. C'est un mot qu'on a du mal à expliquer, en fait. Hein. Quand on dit Dieu tout-puissant, tout de suite, on nous balance la question du mal, et on se retrouve coincé en disant, bah, si il est tout-puissant, pourquoi le mal, quoi. Mais parce que, en fait, ce mot tout-puissant, il ne veut pas dire que Dieu peut faire tout ce qui lui passerait par la tête, tout ce qui est plus absurde même. Voilà. Dieu est contraint par sa propre cohérence, en fait. Il ne peut pas être incohérent avec lui-même. Donc cette toute-puissance, on voit déjà même que, pour une raison logique, ce n'est pas un truc absolu qui partirait dans tous les sens. Donc il faut travailler ce mot-là pour voir qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu être tout-puissant. Et... pour ne rien vous cacher, il y a aussi des débats entre théologiens encore maintenant pour savoir précisément ce que ça veut dire. Donc ne vous inquiétez pas d'avoir vous-même des idées qui un peu contradictoires qui fusent sur le sujet. Voilà. C'est partie des mots sur lesquels on a encore du mal à savoir vraiment précisément ce que ça veut dire pour Dieu d'être tout-puissant. Mais fin de la parenthèse. Ce mot, en fait, il a tellement besoin d'être déminé que même si c'est le premier terme qu'on dit lorsqu'on récite le credo, « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant », il est encadré par Père et Créateur, comme s'il avait besoin de ces deux mots-là pour être éclairé, en fait, et bien compris. Dieu il est tout-puissant parce qu'il est Créateur. Dieu il est tout-puissant parce que tout vient de lui. Il a tout pu. Vous voyez, il peut tout ce qui existe, Dieu. Dieu est tout-puissant en ce sens-là. Il a créé tout ce qui existe et il peut faire exister tout ce qui existe. Mais ça n'a pas de sens de se demander si est-ce que Dieu est capable de créer une pierre qu'il ne pourrait pas soulever, en fait. Dieu est cohérent avec lui-même et il y a une logique, en fait, dans sa création, dans sa toute-puissance. Elle est liée, en fait, au monde que l'on perçoit et qu'il a créé lui-même. Si Dieu est donc tout-puissant, ce n'est pas une toute-puissance arbitraire, mais c'est une toute-puissance paternelle, une toute-puissance qui crée pour faire grandir. Voilà. Et un père ne fera pas n'importe quoi avec son enfant, s'il veut le faire grandir. Il y a aussi du coup derrière quelque chose qui vient dans la foulée, c'est que Dieu est tout-puissant, c'est vrai, mais quand on veut faire grandir quelqu'un, on est obligé de limiter sa puissance. On voit bien, les parents font forcément cette expérience-là, que pour faire grandir un enfant, il faut à un moment donné le laisser faire les choses sans lui mettre tout à portée, sinon il ne peut pas se déployer lui-même. Et donc Dieu aussi, bien que tout-puissant, choisit de ne pas toujours déployer cette toute-puissance, et encore moins d'une façon arbitraire. Ceci dit en passant, c'est aussi une façon de ne pas être arbitraire et de respecter certaines règles, c'est une façon pour lui de nous permettre de le connaître. On ne peut pas connaître quelqu'un qui change tout le temps. Ce n'est pas possible. Donc la toute-puissance de Dieu, c'est donc une toute-puissance cohérente, intelligible, et non pas une toute-puissance qui fait peser constamment sur nous une espèce d'épée de Damoclès où on ne sait pas trop ce qui pourrait tomber sur le coin de la figure et qui pourrait sortir de cette toute-puissance-là où il y aurait des tas de choses qu'il inventerait tous les 4 matins pour notre bien ou pas. On ne saurait pas trop. Voilà. Et donc, pour conclure sur la toute-puissance, c'est comme ça que petit à petit peut se dévoiler le sommet de la toute-puissance qui est que la toute-puissance de Dieu, c'est être capable de prendre sur lui. De prendre sur lui, y compris le mal, y compris le non, pour les porter et pour les pardonner. Dieu est tout-puissant parce qu'il est capable sans cesse de recréer. Il est tout-puissant parce que même l'œuvre de destruction n'a pas de prise sur lui. Ça va, ça ? Donc, enfin, troisième mot qui ressort, Dieu est Père. Je terminerai sur ce mot-là et j'aurai un dernier petit paragraphe pour conclure mon intervention. Mais Dieu est Père, alors ça évidemment, bah, comme chrétien, c'est, on en parle tout le temps, on le sait, etc. Mais ce n'est pas forcément ce qui nous vient le premier en tête, statistiquement parlant. C'est intéressant parce que ça veut dire que, ouais, en Dieu, il y a beaucoup de dimensions, Dieu est riche, et que le mot Père, du coup, il ne suffit pas non plus tout seul à décrire toutes les dimensions de Dieu. Ça me servira pour le dernier paragraphe. Bon, c'est difficile de tout dire sur Dieu. Qu'est-ce que ce mot Père veut dire, en fait, par contre? Ça, c'est pas évident, parce que dans l'Ancien Testament, encore, au moment où le peuple hébreu écrit cet Ancien Testament, tous les rois environnants se faisaient appeler fils de Dieu. Et Dieu était, les dieux étaient leurs pères, quoi. Et en même temps, je pense qu'ils n'étaient pas dupes non plus, je ne vais pas les prendre non plus que pour les abrutis. Il voyait bien qu'il n'y avait pas de génération physique entre l'un et l'autre, mais voilà, même si l'image pouvait être employée. Et en fait, Israël va assez naturellement du coup reprendre cette façon-là de nommer Dieu, son père. Dans l'Ancien Testament, vous voyez souvent des phrases où Israël s'adresse à Dieu en disant « Tu es notre père ». Mais Dieu est le père d'Israël dans son ensemble, dans ces phrases-là. Il n'y a pas de notion d'individu. Ok. Dans la vision d'Israël, on ne peut pas être individuellement fils de Dieu. Israël est le fils de Dieu dans son ensemble parce que c'est lui que Dieu a sauvé de l'esclavage, lui qui l'a façonné, fait grandir, implanté, lui qui l'a, voilà, dont il est le Dieu. Mais on n'a pas cette idée que Dieu puisse être le père d'un individu. Par contre, on le présente souvent comme le père du roi, le père des pauvres, sur lesquels il veille d'une intention bienveillante. Et on voit, en fait, dans l'Ancien Testament, que Dieu, désigné comme Père, ça veut dire qu'il y a deux choses en lui. Dieu est à l'origine première de tout, donc il est, en fait, ça découle du fait qu'il est créateur, et en même temps, il est bonté, sollicitude aimante pour tous ses enfants. C'est ces deux aspects-là. Puis, dans le mot créateur, il a fallu pas mal pédaler pour se rendre compte que Dieu était bienveillant. Dans le mot Père, on l'a immédiatement, ce côté-là, le côté bienveillant. Et ce que je viens de vous raconter là, pour ceux qui aiment les références, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 239. Désigner Dieu comme Père indique principalement deux aspects, que Dieu est origine première de tout et autorité transcendante, et qu'il est en même temps bonté et sollicitude aimante pour tous ses enfants. Numéro 239, donc. Pour le dire avec d'autres mots, c'est vrai que le Père est l'origine de son enfant, par définition, et qui va veiller dessus et le protéger avec amour, et en même temps, il n'est pas identifiable à son fils. Il y a une vraie distance entre les deux, de même que Dieu est créateur, du coup, mais qu'il est vraiment distinct de notre monde. Voilà pour l'Ancien Testament, mais nous, on a appris, parce qu'on nous l'a dit, qu'il y a un sens plus profond que ça, en fait, pour Dieu. Dieu n'est pas juste Père, comme une image, ok, vous voyez, c'est pas une image pour dire quelque chose de Dieu. Jésus révèle que Dieu est Père dans un sens inouï, c'est qu'il est éternellement Père parce qu'il a depuis toujours un Fils qui est Jésus lui-même. Et ça, c'est assez fou. Ça, c'est le numéro 240 du catéchisme. Il est éternellement Père en relation à son Fils unique. En fait, voilà, Dieu n'est pas, le mot Père n'est pas une image simplement, comme on dit, Dieu est mon rocher. Vous voyez ? Dieu est Père parce qu'il a vraiment un Fils. Et un fils qui est là depuis toujours. Il n'a pas créé, qu'il n'a pas eu besoin de créer pour se faire plaisir ou je sais pas quoi. Il est père depuis toujours. Donc ce mot père, en fait, ce qui est très fort, c'est qu'il décrit Dieu de l'intérieur, en réalité. Il décrit le cœur même de Dieu. Non pas comme le mot créateur où on regarde la création et on remonte jusqu'à Dieu, vous voyez, mais là on plonge vraiment dans l'être même de Dieu, dans le cœur même de Dieu. Et c'est là que, du coup, on découvre que comment Dieu est amour. Voilà, Dieu est un amour parce que c'est une relation qui donne la vie. Et c'est ça, la définition de l'amour. Une relation qui donne la vie. Dieu donne sans cesse la vie à son Fils, et son Fils donne sa vie au Père constamment. Et cela avant même, si je puis le dire comme ça, avant même l'incarnation, avant même qu'il soit donné sur la croix. Dans le cœur de Dieu, dans la Trinité, le Père se donne au Fils, le Fils se donne au Père, c'est leur vie de se donner l'un à l'autre, et l'un pour l'autre. Je m'adresse du coup une petite parenthèse là pour les pères qui sont ici présents. Vous réalisez du coup peut-être que vous avez un observatoire unique du cœur de Dieu en fait, vous qui êtes père. Vous mesurez ce que ça veut dire être quelque chose de ce que Dieu vit dans sa relation à son fils, dans sa relation à nous-mêmes. Les mères, on ne le dit pas, mais vous savez, quand Jésus est saisi aux entrailles, qu'il est ému par les gens qu'il croise, c'est un mot féminin. Être saisi aux entrailles, ce mot-là, il est féminin, c'est les entrailles féminines, voilà, dans la langue hébraïque. Voilà. Donc vous avez aussi un poste d'observation unique sur ce qui se passe dans le cœur de Dieu et de Jésus. Voilà. Bref, pour revenir à Dieu lui-même, c'est le fait de réaliser que Dieu est Père, est vraiment Père en relation au Fils, fait que, en fait, on va pouvoir se dire, en fait, quand je vois Jésus, je vois quelque chose de Dieu. Et je le vois d'une façon tout à fait particulière, tout à fait unique. J'ai pas mieux pour connaître Dieu que Jésus, en fait. Parce que j'ai pas mieux qu'un Fils pour connaître le Père. Mais ça, on y reviendra quand on parlera du Fils. Enfin, j'ai oublié un petit paragraphe. J'en ai cette petite phrase qui est là. Je ne développe pas tout ce qui est autour du miséricordieux, ma vie, où c'est lors de la relation aussi, miséricorde, espérance, etc., où on aura le temps de développer ça plus tard, dans d'autres soirées. Mais évidemment, ce sont des caractéristiques particulières de Dieu, et peut-être que le mot aurait pu surgir davantage, puisque je vois ici miséricordieux, ici miséricorde, et il me semble l'avoir vu encore à nouveau, miséricordieux ici, voilà, point d'accent. Donc probablement qu'il aurait surgi dans les mots importants. Je l'aurais malgré tout réservé pour les séances suivantes, parce que là, notre objectif aujourd'hui, ça reste de plonger dans une vision de Dieu, dans ce qu'il est avant la relation qu'il entretient avec nous. Je ne sais pas si ma phrase est très claire, mais voilà. Ok. Du coup, je vais être sur cette chose-là. Dieu est unique, mais trois en un. Dieu est unique, c'est le cœur de la foi hébraïque. Dieu est un, et ça c'est très fort, c'est le Shema Israël qu'Israël se répète sans cesse, voilà, qui fonde son identité. Et c'est une affirmation théologique forte, une opposition absolue au polythéisme qui l'entoure. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et quand on a un petit peuple coincé entre deux gros empires que sont l'Égypte et la Mésopotamie, faut le croire fort, hein, pour le continuer à l'affirmer, quoi qu'il arrive. Mais Dieu est un, et en fait, ça a une implication dont je voulais vous parler pour déminer un petit mot qu'on emploie parfois en théologie sur Dieu, c'est le mot « Dieu est simple ». Dieu est un, donc il est simple. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'il est facile à comprendre. Le mot « simple », il ne veut pas dire ça en théologie. Ça veut dire qu'il n'est pas composé, il n'y a pas de partie en lui. Voilà. Et donc en fait, c'est là que philosophiquement s'articule ce que je viens de vous dire, c'est que pour Dieu, être créateur et être père, c'est la même chose. Il n'y a pas une partie de Dieu créatrice, une partie de Dieu père, c'est la même chose en fait. Être tout-puissant et être amour, c'est la même chose en lui, en fait. Tous les attributs de Dieu en lui, tout ce qu'on peut dire de Dieu, en fait, ça se tient en lui. Ça s'éclaire l'un par l'autre, mais ça ne fait pas partie, ça ne fait pas des coupures en Dieu. Ou autrement dit aussi, il n'y a pas de quantité en Dieu. Quand on dit Dieu est grand, ça ne se mesure pas en kilomètres, vous voyez. On ne peut pas mesurer. Enfin, Dieu est simple, c'est ça qui est derrière. Et donc j'arrive là-dessus. Ça me permet de vous dire une dernière chose, c'est que Dieu est en fait aussi ineffable. Ce mot qui veut dire que Dieu est inexprimable. Vous voyez bien qu'on touche du doigt, je parle pas mal avec les mains ce soir, parce qu'on sent que les mots sont trop petits pour parler de Dieu. Évidemment, puisque nos mots ils sont forgés sur ce qu'on voit dans le temps et dans l'espace. Or Dieu, lui, c'est lui qui a créé le temps et l'espace. Donc par définition, il n'a pas besoin d'eux pour exister, il existe sans eux. Et donc nous, on n'a pas les moyens, en fait, de parler adéquatement de Dieu. Donc Dieu, on ne peut pas vraiment... Il y a toujours quelque chose qui cloche, en fait, dans nos mots. C'est pour ça qu'on est toujours un peu mal à l'aise avec... quand on essaie de parler de qui est Dieu pour moi, parce qu'on sait toujours qu'on n'est pas à côté de la plaque. C'est pas grave, assumons-le, et puis on corrige après par d'autres images. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de tous ces mots ensemble pour parler de Dieu. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de toute la Bible, en fait, pour nous décrire qui est Dieu. Et qu'on ne peut pas sortir un passage de la Bible, un verset, pour dire « Dieu, c'est ça », et après, je relis tout le reste. Non, j'ai besoin de l'ensemble pour comprendre qui est Dieu. Ce n'est pas anodin que, en fait, on ne puisse pas sortir un verset de la Bible comme ça pour l'interpréter comme je le veux. Mais que j'ai besoin de tous les autres versets pour comprendre aussi ce verset. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Ça veut dire que Dieu, on ne peut pas le démontrer. À partir de concepts qui aboutissent à Dieu. On ne peut que le montrer. Vous voyez ? Dieu, c'est comme un rocher. Donc on pointe, on utilise une image et on va dire, vas-y, il faut que tu essayes, toi, de ton côté, de voir ce que ça veut dire quand je transpose en Dieu. Mais je ne pourrais pas te démontrer que Dieu est solide. Voilà, je peux juste t'expliquer qu'il y a quelque chose de solide, mais c'est, ça ressemble à du solide, mais ce n'est pas du solide comme tu le vois d'habitude, quoi. Nos mots sont toujours un peu petits. Au point que certains théologiens même ont refusé de dire quoi que ce soit sur Dieu. Ils ont dit, dans Dieu, on ne peut rien dire d'adéquat, donc je vais dire simplement ce qu'il n'est pas. Ce qu'on appelle la théologie négative. Ce n'est pas une théologie dépressive, vous voyez, c'est une théologie qui dit Dieu n'est pas, en fait. Enfin, Dieu n'est pas le monde. Enfin, Dieu est en dehors du monde. Et là, je viens de refaire quelque chose de positif. Mais Dieu n'est pas le monde, Dieu n'est pas ceci, Dieu n'est pas cela. Puisque je ne peux pas dire ce que Dieu est, voilà, je vais dire ce qu'il n'est pas. Ça me permettra au moins de le cerner sans dire trop de bêtises. Mais en fait, voilà, il y a un côté toujours un peu insatisfaisant de se contenter de dire ce qu'il n'est pas, parce que la relation elle n'est pas de dire « tu n'es pas ça » et « tu me dépasses », elle vise le cœur de l'autre, en fait. Donc, en théologie, il faut toujours faire ce mouvement de va-et-vient entre « voilà, je vais dire que Dieu est ça » et en même temps, en fait, il est plus que ça, il n'est pas ça, il n'est pas que ça. En réalité. Voilà. Et donc, si je peux simplement vous laisser avec une chose ce soir, c'est peut-être ça, c'est que n'ayez pas peur d'avoir des mots trop petits pour parler de Dieu. Employez-les, parlez avec les mots que vous avez et affinez, équilibrez avec d'autres mots. C'est le seul moyen qu'on a pour parler de Dieu d'une façon aussi adéquate que notre aspect de créature, notre être créé puisse le faire.